Alors, si vous voulez me suivre, on va aller dans Genèse, chapitre 6, les versets 1 à 9. Genèse, chapitre 6, versets 1 à 9. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les femmes des hommes étaient belles. Ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont les héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. L'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Alors, on va demander la bénédiction du Seigneur pour notre étude. Seigneur, tu nous as accordé la vie éternelle. Tu es venu nous chercher dans notre misère, dans notre péché, dans notre perdition. Et tu t'es révélé à nous par ton Saint-Esprit pour nous montrer que la solution se trouvait en Christ pour le pardon de nos péchés et aussi pour l'accomplissement de la loi qui était une de tes exigences pour qu'on puisse vivre en ta présence. Merci Seigneur de nous avoir donné le salut, de nous avoir redonné la vie spirituelle. Alors Seigneur, on te prie de nous conduire dans ce message, que ton esprit nous éclaire, élimine notre intelligence. Fasse en sorte, Seigneur, que ces 9 versets viennent parler à notre cœur, à notre âme, nous enseignent des principes qu'on se doit d'appliquer dans notre vie de tous les jours. Et que, Seigneur, on te demande aussi pardon pour nos péchés, pour qu'on puisse être vraiment, qu'on puisse recevoir la bénédiction que tu veux nous donner aujourd'hui à travers l'enseignement et aussi à travers l'ensemble du culte et les relations qu'on peut avoir entre frères et sœurs. On te demande ces choses en Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alors, je vous rappelle qu'on fait, dans le fond, la deuxième partie. On avait commencé l'étude de ce chapitre-là. Et là, on fait la deuxième partie parce qu'on n'avait pas eu le temps de la terminer. On va faire une révision un peu rapide de l'ensemble des choses qu'on avait vues. Alors, on avait le titre que j'avais donné à ce sermon-là, c'est « Le comble de la dépravation humaine appelle un jugement divin ». Alors, on constate par le texte que le Seigneur voit que la situation de la terre était rendue le péché s'était vraiment enraciné, les hommes s'étaient enlisés dans le péché, et le Seigneur venait leur dire qu'il y a un jugement très sévère qui s'en venait, dont on sait c'est le déluge. Alors le déluge va être le jugement que Dieu amène à la situation. Alors on avait vu que dans le texte, il y a différents problèmes ou difficultés. Tous les commentateurs qu'on utilise pour ces passages-là voient les mêmes difficultés aux mêmes endroits. Et quels sont-ils? Ben, je pense qu'une des difficultés, c'est de déterminer qui sont les fils de Dieu du verset 2. Est-ce que c'est les anges déchus? Est-ce que c'est des rois? On avait vu un petit peu les différentes possibilités dans notre dernière étude. Alors, il semble que les érudits de la Bible, donc les personnes qui connaissent l'hébreu, qui ont déjà étudié ces passages-là, reconnaissent que ce passage-là est un des plus difficiles à interpréter de l'Ancien Testament. Alors, est-ce qu'il s'agit des anges déchus, comme on a dit? Est-ce qu'il s'agit de la lignée de Seth? Donc, les fils de Dieu, est-ce que c'était les personnes qu'on pourrait dire régénérées de l'époque qui avaient commencé à se marier avec des filles non converties? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Ou est-ce que c'est des monarques ou des rois? Parce qu'on sait qu'il y a d'autres passages des Écritures qui utilisent les fils de Dieu comme étant des monarques. Alors, les différentes possibilités, je les avais données dans le dernier sermon. Et si jamais il y a des personnes intéressées à aller un peu plus en profondeur, ben dans le texte qu'il va y avoir sur le site web, vous pouvez télécharger le PDF. Et là, à ce moment-là, vous avez le texte un petit peu plus qui décrit un peu plus en profondeur chacune des positions et comment elles sont défendues par chacun de ceux qui croient que c'est l'interprétation correcte. Il y a un autre problème dans ce passage, difficulté dans ce passage-là, c'est le fait de l'Éternel se repentit et l'Éternel est affligé dans son cœur. Comment on peut concilier ces deux affirmations-là avec la doctrine de l'immuabilité de Dieu, ou l'immuabilité, ou il y a deux façons de le dire, en tout cas. Comment on peut concilier ça? Si on dit que Dieu ne change pas, Dieu ne change pas dans sa nature, Dieu ne change pas dans ses décrets, Dieu ne change pas dans ses décisions, comment Dieu peut se repentir? À quelque part, il faut trouver la solution, mais on la trouve toujours, en général, dans le fait de regarder ce qui est déclaré sur ces choses-là dans d'autres passages des Écritures. On ne peut pas jamais prendre un passage et dire, ça dit que Dieu s'est repenti, donc Dieu a changé d'idée. Oh, il faut faire attention. Il faut regarder l'ensemble de ce que les Écritures disent sur le même sujet, dans l'ensemble des Écritures, et c'est là qu'on a la lumière. Si on ne fait pas ça, bien là, on peut faire dire des choses aux Écritures et prêter des caractéristiques à Dieu qui ne sont pas les siennes du tout, du tout. Alors, ça, c'est une des difficultés aussi qu'on rencontre dans le texte. Et on voit aussi dans ce passage-là, on peut apprécier la fidélité de Dieu dans Genèse 3:15. On va voir que pour les premiers hommes, pour les premières générations, de s'être fait promettre par Dieu qu'il enverrait un Messie, il n'a jamais dit quand. Il a dit qu'il enverrait un Messie. Il pouvait arriver des circonstances où on pouvait dire, mais comment il va faire pour envoyer un Messie? Comme par exemple, là, il est en train de préparer le terrain au fait qu'il va y avoir un déluge universel, où il va détruire toute la vie sur Terre, les animaux, les hommes. On considère souvent qu'il y avait peut-être une couple de millions d'êtres humains déjà à ce moment-là sur la Terre. Alors 2 millions, c'est beaucoup. Il dit, je vais tous les détruire à cause de leur méchanceté, de leur enracinement dans le mal, de leur enlisement dans le mal, excepté Noé, sa femme, ses 3 fils et leurs épouses. Ça fait 8, pas beaucoup, hein? Alors Dieu va accomplir la promesse à travers toutes les difficultés qu'on va rencontrer. Alors si on garde Genèse 3:15 en mémoire, puis qu'on lit la Bible, c'est là qu'on voit que Dieu a de la suite des idées, comme on dit. Ça a pris 4000 ans avant que le Christ vienne. Alors, ça a été long, mais tous ceux qui croyaient ce que Dieu avait dit savaient que ça arriverait un jour. Et je me mets à la place de Siméon, le vieux prophète, où on vient y présenter le Christ. Et l'Esprit de Dieu l'avait averti qu'il ne mourrait pas sans voir le Christ de Dieu. Mais j'essaie des fois de... Tu reçois l'enfant dans tes bras, le Christ, c'est le Christ que tu as dans tes bras, là. À quelque part, ça devait être quelque chose. Alors, Dieu fait des promesses, il accomplit toujours ses promesses. La même chose que là, actuellement, il nous a promis qu'il reviendrait la deuxième venue. Et on peut être sûr, c'est long. Il y a plusieurs qui ont cru qu'il va arriver là. Dans le temps de Paul croyait déjà qu'il arriverait à son époque, durant sa génération. Et c'est pas arrivé là. Et toutes les générations après ont cru, depuis 2000 ans, beaucoup de générations ont cru, bon, c'est l'anneau qui va voir le retour de Christ. La seule chose sur laquelle qu'on peut être sûr, c'est que ça va arriver, un peu comme la venue de Christ est arrivée, ça a pris du temps, mais Dieu fait les choses en son temps. Alors, on avait vu que dans les versets 1 à 4, c'est la dépravation humaine que Dieu avait constatée. Parce que ça dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors, on voit qu'il y avait la multiplication des êtres humains. Quand on est deux pécheurs, sous un même toit, il va y avoir du péché plus que si tu es seul. Si tu en as trois, il va en avoir plus. Si tu en as dix, il va en avoir plus. Plus c'est gros, plus il y a d'hommes, plus les possibilités de péché augmentent. Alors imaginez-vous quand vous êtes rendu une couple de millions, puis c'est tous des incroyants, alors ils s'enlisent dans le péché de plus en plus, et le Seigneur a vu la situation, il a constaté que le nombre de croisseurs, nombre de pécheurs croissants amenait des problèmes énormes. Et on a vu qu'un des facteurs qui avait contribué à amener cette déchéance-là, c'était vraiment le fait que les hommes avaient commencé à choisir des femmes uniquement sur le critère de la beauté physique et ne pas regarder si c'est des femmes régénérées. Alors, on le sait, ça s'applique, le passage s'applique aussi encore de nos jours, comme dans 2 Corinthiens 6, verset 14, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? » C'est souvent le passage qu'on utilise pour démontrer, pour dire à quelqu'un que se marier avec un inconverti, c'est vraiment un grand danger. Parce que le Seigneur dit de ne pas se mettre sous un joug. Parce qu'on n'est pas, il y en a un qui est dans la lumière, l'autre est dans les ténèbres, on ne peut pas se mettre ensemble. La même chose qu'on utilise souvent le même verset pour parler des personnes qui voudraient se partir en affaires avec un, disons, toi tu es chrétien, tu décides de te partir en affaires avec un inconverti, tôt ou tard, tu vas avoir des problèmes. Parce qu'on ne voit pas les choses de la même façon, on n'a pas le même concept de qu'est-ce que c'est l'honnêteté et tout ça. Et on avait regardé aussi que le fait que cette habitude-là ait été introduite chez les hommes, de se marier avec des inconvertis, ça l'avait amené des problèmes historiquement dans le cours de l'histoire de l'Ancien Testament. Par exemple, Salomon, qu'est-ce qui a été la cause de sa chute? Les femmes. Et on a un autre exemple dans Esdras, quand il y a eu les mariages mixtes, on sait que le peuple avait été à Babylone, et quand ils sont revenus de Babylone, qu'est-ce qu'il y avait avec eux autres? Les chefs, le peuple, s'étaient mariés avec des inconvertis. Et là, on sait dans Esdras que ça avait créé un énorme problème dans le peuple de Dieu. Est-ce qu'on est si différent d'eux aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y en a pas eu des chrétiens aussi qui se sont... Moi, j'en ai vu personnellement, quand j'étais à l'école biblique, une femme qui avait marié, elle était missionnaire, elle avait été, je pense, en République dominicaine, et elle avait marié un inconverti, et ça avait vraiment tourné à la catastrophe. Alors, c'est un passage qui nous parle de ça. Et dans le verset 3 et 4, on a vu que Dieu voit la méchanceté et qu'il dit « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme ». Car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Et on parle des géants qui étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les fils des hommes, filles des hommes, et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont les héros qui furent fameux dans l'Antiquité. On voit qu'il y avait déjà, à quelque part, une corruption qui s'exprimait par une résistance aux influences divines. Quand l'homme ne tient pas compte de sa conscience, quand l'homme ne tient pas compte des avertissements qu'il reçoit autour de lui par les Écritures, tôt ou tard, il va y avoir un enfoncement dans le péché. Quand on parle du 120 ans, il y a deux façons de voir les choses selon les commentateurs. Il y en a qui disent que ça nous donne le temps que ça va prendre avant que Dieu amène son jugement du déluge. Quand il dit les jours des hommes seront de 120 ans, il y en a qui disent que, bon, c'est comme une façon de Dieu de dire, je vous laisse encore 120 ans avant que j'envoie le déluge. Et il y en a d'autres qui croient que le nombre de jours des hommes était diminué parce que la durée de vie de l'époque était quelque chose comme autour de 900 ans et plus. S'il ramène les jours de l'homme à 120 ans, ça veut dire que Dieu a quand même... Il regarde la misère, il a l'intention de juger, mais c'est comme s'il voulait dire, ben là, on va baisser le nombre de leurs années parce que vivre dans le péché pour si longtemps, c'est une miséricorde. Il faut voir le fait... Si on le comprend comme Dieu a baissé la durée de vie, on voit ça comme un geste de miséricorde. Et si on le voit comme... Parce qu'il y en a qui ont calculé, moi je n'ai pas pris le temps de le faire, mais il y en a qui ont calculé apparemment qu'il y aurait eu 120 ans depuis l'avertissement de Dieu aller jusqu'à l'arrivée du déluge. Apparemment que ça ne fonctionne pas. Mais je ne me suis pas embarqué dans ce genre de choses-là. Et il semble, d'après le verset 4, que les hommes, à cause des géants, plusieurs interprètent le passage comme... les hommes ont commencé à s'intéresser au pouvoir et à la force brute. Autrement dit, tu veux imposer, un peu comme on voit dans les sociétés où qui sont dirigées par des dictateurs, qu'est-ce qui mène? C'est celui qui est au pouvoir et il prend tous les moyens pour garder son pouvoir. Alors, il semble que les hommes de l'époque de Genèse avaient adopté l'attitude de vouloir vraiment contrôler la société, le gouvernement, on pourrait dire, par la force brute. Alors, qu'est-ce que le Seigneur dit dans le verset 5? L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est pas un petit jugement, ça. L'Éternel, quand on dit qu'il voit, il voit la perfection, il voit la grandeur, il voit les cœurs de tous les hommes, il voit tout ce qui se passe partout, en tout temps, jour et nuit. Qu'est-ce qu'il nous déclare? Toutes les pensées de leur cœur, chaque jour, se portaient uniquement vers le mal. Ça veut dire, disons qu'on prend pour acquis que le chiffre de 2 millions est correct. 2 millions de personnes qui pensent à tous les jours à faire uniquement du mal. Quelle sorte de société vous pensez que ça donne? Le Seigneur avait fait la promesse qui réglerait le problème de l'humanité par l'arrivée du Messie, mais déjà la société était tellement pourrie que s'il avait l'intention de l'envoyer juste 4000 ans après, tu ne pouvais pas laisser ça croître encore davantage. Elle est aussi... Et là qu'on arrive avec le fameux verset de la repentance, dans le verset 6, ça dit « L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé dans son cœur. » Là, on arrive dans la fameuse doctrine de l'immuabilité et comment on appelle ça? L'impassibilité. Alors ça, c'est des doctrines qu'on a besoin de revoir, de mieux comprendre, de plus approfondir, de mieux étudier. Parce qu'il n'y a que, quand on comprend bien ces choses-là, qu'on peut interpréter ce verset-là de façon correcte. Parce que si on dit que Dieu se repent, mais le mot « repentance » voudrait dire la même chose que nous, quand on est régénéré, on est encore pécheur. Et quand on se repent, ça veut dire qu'on change d'idée, on change. L'être humain, par définition, il change continuellement, et encore plus l'être régénéré, parce que l'être irrégénéré, lui, change pas, il reste dans son péché, il fait juste s'enfoncer. L'être régénéré, lui, il change, mais on peut pas donner le sens de la repentance, attribuer ça à Dieu, en disant que c'est la même chose que l'homme. Ça ne peut pas se faire. Alors, comme je vous ai dit tantôt, quand on veut interpréter des passages comme ça, affligé dans son cœur, encore là, affligé, ça veut dire que tu es vraiment attristé. Et quand on étudie la théologie, on dit que Dieu ne change pas dans ce qu'il est. Alors, quand tu es triste, c'est quand tu es de bonne humeur, tu deviens triste, ton état change. Mais l'état de Dieu ne change jamais. Alors, quand on parle d'affligé dans son cœur, on parle de la relation de Dieu avec le péché, mais il utilise une expression qu'on utilise, on dit souvent anthropomorphisme. Il utilise des mots qu'on comprend, nous, ce que ça veut dire. Si je dis à quelqu'un, te repentir de ton péché, ben non, si je dis à quelqu'un, je me suis repenti de mon péché, j'avais tel péché que je commettais régulièrement, et me suis repenti, je ne le fais plus, ça veut dire que j'étais comme ça, je suis plus comme ça, j'ai changé. Est-ce qu'on peut dire ça de Dieu? Ben non, on peut pas dire ça de Dieu. Mais là, les gens vont dire, pourquoi ils utilisent ce mot-là? Ben, c'est simplement que Dieu est bon de se mettre à ton niveau. Te faire comprendre quelque chose que tu ne peux pas comprendre que si tu n'utilises pas un anthropomorphisme. Quand on dit Dieu a le bras long, ou qu'on dit les oreilles de l'Éternel sont ouvertes, ou le nez, ou je sais pas, prenez quelque expression que ce soit, où on parle de Dieu et on utilise des expressions qui nous laisserait sous-entendre que Dieu serait comme un être humain, mais plus grand. C'est pas ça du tout, là, parce que les Écritures n'enseignent pas cela. Dieu est partout, dans tout son univers. Si vous allez sur Saturne, Dieu est là. Si vous allez, peu importe ce que vous croyez, la chose dont vous pouvez parler, que c'est une créature ou une création, Dieu est dans sa création, qu'on appelle, en théologie, et il est au-dessus de sa création. Donc, il est dans sa création et il est au-dessus de sa création. Ça, c'est bien important de se souvenir de ça parce que là, quand on comprend de la manière dont Dieu est, ben, on sait qu'il est. Alors, il est dans sa création et il est au-dessus de sa création. Un peu comme dans, je pense, dans le livre des Rois, qui dit que il est... l'univers ne peut pas le contenir, mais qu'il est au-dessus. Alors, faut... Parce que là, si on se fait une image comme on avait quand on était jeune, qui nous donnait, quand on répondait au catéchisme comme il faut, nous donnait une belle petite image avec Dieu le Père, puis Dieu le Fils assis à côté, puis il y avait un genre de oiseau entre les deux. Et là, c'était supposé de représenter la Trinité. Là, on voyait le Père comme une grosse barbe blanche, puis... Alors, on nous présentait les personnes de la Trinité avec des traits humains. Mais c'est pas ça que les Écritures nous enseignent. Il faut faire attention de ne pas prêter à Dieu des choses qu'il n'est pas. Alors, quand on parle des anthropomorphismes, et aussi anthropopathisme. Anthropopathisme, ça veut dire prêter des émotions à Dieu. Est-ce que ça veut dire que Dieu ne ressent rien face à rien? C'est pas ça que ça dit. Les Écritures utilisent du vocabulaire comme quand on parle de la colère de Dieu. Vous autres, quand vous vous mettez en colère, on a des éclats. Hein? On part dans toutes les directions, on fait des bêtises. La colère de Dieu, c'est pas ça. C'est pour exprimer, il utilise un sentiment qui est humain pour nous montrer qu'il est le péché. Mais c'est souvent, les problèmes, quand on veut interpréter les Écritures, comme par exemple ce passage-là, quand on parle « l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme », ça laisse, dans notre esprit à nous, c'est comme si on disait « Dieu, il a regretté d'avoir fait l'homme ». Puis là, il était affligé dans son cœur. Avant, il était heureux, mais là, il est affligé. Pas ça du tout que ça l'enseigne. Parce qu'il ne faut pas, comme je l'ai dit tantôt, interpréter le passage uniquement là. Mais regardez ce que l'ensemble... Et c'est pareil dans toutes les doctrines. Pourquoi il y a beaucoup de problèmes en théologie? Par exemple, la différence entre l'arminianisme et le calvinisme, ça vient souvent de là, c'est qu'on ne tient pas compte de ce que les Écritures enseignent dans d'autres passages. Parce que les Écritures ne se contredisent pas, ils se doivent de s'harmoniser, et elles s'harmonisent. Ce n'est que lorsque tu prends une position que tu veux la garder à tout prix, que tu ne tiens pas compte de ce qui est dit ailleurs, que là, tu fais dire aux Écritures ce qu'elles ne disent pas. Alors, il faut que, quand on lit ce passage-là, il faut notre compréhension soit encadrée par la doctrine de l'immuabilité. On l'a dit un petit peu tantôt, qu'est-ce que c'était l'immuabilité? Dieu ne change pas dans sa nature. Et là, il faudrait aller... Pardon d'en parler longtemps. Après ça, Dieu ne change pas dans ses décrets. ce qu'il a décidé, il ne pouvait pas se repentir, dire, ben là, j'ai fait ça, puis pour moi, j'ai fait une erreur. Là. Je le regrette d'avoir fait ça. C'est une façon de nous dire que la situation était rendue tellement grave qu'il nous prête à Dieu soit une forme humaine ou soit une émotion humaine pour nous faire comprendre quelque chose. Alors, c'est de cette façon-là qu'on comprend l'affliction de Dieu et qu'on comprend aussi la repentance de Dieu. Parce que là, si on lui fait dire la même chose que nous, les pécheurs, là, on est en train de réduire Dieu à un niveau très bas. Alors, les anthropomorphismes, c'est des attributions de forme humaine à Dieu, l'oreille de Dieu, la bouche de Dieu, l'œil de Dieu, parce qu'on comprend des choses quand on utilise ces choses-là par rapport à Dieu. Et l'anthropopathisme, ça veut dire attribution d'émotions humaines à Dieu. C'est toujours dans le but de nous faire comprendre quelque chose. C'est comme si quelqu'un, disons que, je ne sais pas moi, Albert Einstein, avec la doctrine, la relativité, il voudrait expliquer la relativité humaine à un enfant de 6 ans. Bien, il sera obligé, quelque part, d'utiliser un langage pour atteindre l'esprit de l'enfant, pour qu'il puisse avoir, ne serait-ce qu'un petit flash concernant ce qu'il veut dire. Bien, quand c'est concernant Dieu, la distance entre Einstein et l'enfant, et la distance entre nous et Dieu est encore plus grande, infiniment plus grande. Alors, quand Dieu veut nous expliquer des choses, il est obligé d'utiliser des... c'est comme exactement le même principe qu'on parlait d'Einstein qui voudrait expliquer la relativité à un enfant de 6 ans. Il pourra peut-être y arriver avec des certains mots, une certaine compréhension, mais, tu sais, E égale MC2, là, l'énergie est égale à la masse par la vitesse de la lumière au carré. J'essaierai d'expliquer ça à un enfant, vous m'en donnerez des nouvelles. Mais c'est exactement la même chose. Le Seigneur est en train de vouloir utiliser des expressions pour faire comprendre une situation et il utilise des formes humaines, il utilise des émotions humaines pour arriver à nous le faire comprendre. Tout à l'heure, je vous parlais que dans d'autres versets, on va en prendre un exemple, on va en prendre deux. D'autres exemples des Écritures qui nous parlent de changement au niveau du Seigneur. 1 Samuel, chapitre 15, verset 29. « Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point. Car il n'est pas un homme pour se repentir. » Là, si vous prenez 1 Samuel 15, 29, si vous prenez Genèse, le verset qu'on vient de voir, comment on fait pour concilier les deux? Si vous prenez Jacques 1, 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel, on parle de Dieu, là, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » On parle de l'immuabilité de Dieu. Dieu ne change pas. Il ne peut pas avoir changé d'idée. C'est une façon de nous dire, maintenant, les hommes, vous êtes rendus à un tel point qu'il faut que j'intervienne. Alors, on ne peut pas accuser Dieu d'être capricieux, d'être désillusionné, ou un Dieu qui est en train de modifier sans cesse ses plans en fonction de l'imprévisibilité de l'homme. C'est comme si Dieu regarde en bas. On rit, mais ça a une énorme influence. Aujourd'hui même, il y a des livres de théologie qui sont écrits aux États-Unis, qui circulent un petit peu partout, où on est en train de dire que Dieu peut changer. Il regarde en bas, « Ah, non, ça, je n'avais pas prévu qu'il ferait ça. » Ça vient en complète contradiction avec les Écritures, que Dieu dit qu'il a décrété toute chose, de tout ce qui était pour arriver sur la terre. Il y a plein de versets pour ça, là, on ne rentre pas dans la doctrine de l'immuabilité de Dieu, des décrets de Dieu, puis tout cela. Mais s'il dit qu'il n'y a ni changement, ni ombre de variation, si Dieu aurait un changement dans ses émotions, ou aurait un changement dans... Tout est dans la définition des mots. Une émotion humaine, puis une émotion divine, C'est pas la même chose. Quand on parle de la colère de Dieu, on ne peut pas comparer ça avec la colère de l'homme. Je ne sais pas si vous n'avez déjà fait des colères, mais quand on fait une colère, l'homme, il sort de ses gonds, il perd les pédales, il fait n'importe quoi. Quand on parle de la colère de Dieu, il veut utiliser une expression qu'on connaît pour nous dire qu'il hait le péché à un degré, d'une façon telle que pour nous, c'est même pas imaginable à quel point Dieu peut haïr le péché. Alors, il utilise, quand on dit « la colère de Dieu demeure sur eux », ça ne veut pas dire que l'homme, un moment le Seigneur est bien de bonne humeur, puis une bonne journée, il va dire « oh là, je suis choqué contre eux », puis il va. Non, ça n'a rien à voir. Il veut démontrer « la colère de Dieu demeure sur eux », ça veut dire que si Dieu ne leur accorde pas la grâce, ben ils vont subir le fait, quand les personnes vont rencontrer Dieu, qu'ils vont savoir qui il est, ils vont comprendre qui ils sont, eux. Ils vont comprendre jusqu'à quel point Dieu est ce qu'ils font. Bien, pour eux, ça va être ça, l'enfer, ça va faire partie de leur enfer de savoir ces choses-là mieux. Ta dépravité, la sainteté absolue de Dieu et l'ensemble de chacun de ses attributs, quand tu vas le voir clairement, tu vas être submergé littéralement. Alors, c'est une affirmation qui a un but, c'est souligner la gravité de la situation. Alors, ce développement du mal sur la terre ne prend évidemment pas Dieu au dépourvu. Ça veut-tu dire que Dieu veut créer l'homme, puis que là, regardons ça, comment il se comporte? Ben, j'avais jamais pensé qu'il était pour se comporter de même. Ah ben là, je regrette les avoir fait. Alors, si on interprète ça comme ça, on est en train de faire dire à Dieu des stupidités. Parce que, comme je vous ai dit, on ne peut pas interpréter les Écritures uniquement à partir d'un passage. C'est toujours l'ensemble des Écritures. Alors, le verset révèle la réaction de Dieu juste à la perversité grossière de l'être humain. Il réagit ainsi à l'ampleur de la dépravation sur la terre, précisément parce qu'il est immuable dans sa nature et dans son attitude envers le péché. Dieu n'a pas seulement de corps ni de membres. Si je dis les bras de Dieu, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que tu es ici, que tu sois sur la Lune ou que tu sois sur Mars, peu importe où tu sais, où tu es, le Seigneur vient te chercher. Il sait toujours où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait, même si vous seriez en orbite avec un vaisseau, il sait où tu es capable d'aller chercher. Même s'il n'y a pas de corps, même s'il n'y a pas de membres, et il est dénué de passion dans le sens humain de la chose. Alors, c'est toute la... Quand on a parlé un petit peu de ce qui s'est passé à Arabka, la question de l'impassibilité, quand monsieur est venu nous prêcher ici, il nous a parlé de l'impassibilité, ben, c'est justement, on ne dit pas que Dieu n'a pas de passion. Il y a des passions, mais pas les passions comparées à celles des hommes. Alors, le mot traduit par « affligé » exprime une émotion humaine très intense. Quand on dit « je suis affligé par telle situation », ça veut dire qu'on souffre d'avoir vu quelque chose, d'avoir entendu une nouvelle. Ça fait mal. Mais est-ce qu'on est en train de dire que Dieu s'est mis à avoir mal? Ça veut tout simplement exprimer quelque chose d'intense par rapport à Dieu. Si Dieu était un être humain, c'est l'émotion qu'il éprouverait. C'est ça que ça veut dire. Mais vu qu'il ne l'est pas, pour Dieu nous faire comprendre, c'est d'utiliser des mots que nous, à notre niveau, quand on les lit, ça veut dire quelque chose. Alors, comment expliquer cette contradiction apparente? Dieu reste fidèle à lui-même et à ses attributs, haïssant le péché, aimant la justice, prêt à juger selon ses avertissements et à pardonner selon ses promesses. Verset 7. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » C'est vrai que ça a l'air de vouloir dire qu'il a changé d'idée, puis que il les a faites, puis qu'il était donc fin au départ, mais là, ils se sont gâchés. Alors, on sait que l'extermination de l'homme incluait tous les hommes, sans exception, à l'exception de 8 personnes, les Écritures nous disent, Noé, sa femme, ses 3 fils et leurs épouses. Alors on pourrait se dire, ben oui, mais si c'était les hommes qui étaient méchants, veux-tu bien me dire pourquoi Dieu juge toute la création, les animaux compris? On pourrait se dire, ben pourquoi y a-t-il les animaux? Ils n'ont rien fait, eux autres. Alors, l'inclusion des animaux s'explique par le fait que l'homme était à la tête de la création et que la mort des animaux n'était pas pénale. Ils n'ont pas puni, peut-être parce que déjà, le lien de péché entre l'homme et la bête peut-être était déjà établi, fort probablement. Parce que les Écritures nous parlent dans l'Ancien Testament de déjà de bestialité. Alors, Dieu disait, qu'est-ce qu'il disait dans l'Ancien Testament, dans Lévitique, les rapports de bestialité, il fallait que tu détruises l'homme et la bête. Alors peut-être c'était déjà... Alors le Seigneur, mais ce n'était pas dans le but de punir les animaux, mais il avait sûrement sa raison de le faire. Alors malgré cette grave décision de détruire tous les hommes de la terre, Dieu n'a pas changé sa prophétie de Genèse 3:15 et sa promesse de la venue du Messie. Romains 11, verset 29. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. S'il te fait la grâce de te sauver de ton état de pécheur, de ton état de perdition, et s'il a fait l'appel, son appel de venir te chercher, parce qu'on le sait, l'appel irrésistible fait partie d'un des points du calvinisme, Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Dieu ne se repent pas. Il va accomplir sa promesse de la venue du Messie par Noé et après ça, Abraham et tous les patriarches. Alors, les versets 8 et 9, on va les relire. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Est-ce que Noé était meilleur que les autres?
Non.
Non. Une grâce, par définition, c'est quelque chose que tu ne mérites pas. Alors Dieu a décidé que l'accomplissement de sa prophétie se ferait par cet homme-là et lui accorder son épouse et lui accorder ses enfants en même temps et lui accorder toute la famille que par eux, par leurs descendants, le Messie finirait par arriver quand même. Alors, vraiment, la dépravation, le troisième point, c'est-à-dire la dépravation divinement confrontée. Comment Dieu confronte la réalité, la situation telle qu'elle était? Deux manières. On sort ça de la terre, on détruit tout ça. À l'exception de 8 personnes, par lesquelles ma promesse va finir par se réaliser quand même. Alors, c'est confronté de façon, par le jugement et aussi... pour utiliser un grand mot, de façon messianocentrique. Il n'a pas oublié sa promesse. Ça va arriver malgré le fait qu'elle détruit la terre. Alors, l'Ancien Testament, c'est l'histoire du peuple d'Israël. Le Seigneur avait prévu qu'il enverrait son Messie, mais seulement à l'époque et selon les précisions qu'il va donner sur lui de façon graduelle. J'ai un petit tableau, si jamais ça vous intéresse. Ça s'appelle « Les prophéties », et ça, c'est avec la leçon. « Les prophéties concernant la première venue de Jésus-Christ ». Alors, vous avez la prophétie d'un côté, la réalisation de l'autre, et toutes les mentions de l'Ancien Testament qui donnaient des précisions. Parce que là, Genèse 3:15, c'était comme assez général. Après ça, il a dit... graduellement, dans l'introduction, dans les livres, a donné plus de détails sur qui serait le Messie. Premièrement, Genèse 3:15, il a dit qu'il serait issu d'une lignée humaine. Après ça, dans Genèse 12, il a dit qu'il serait un descendant d'Abraham. Après ça, il a dit qu'il viendrait de la tribu de Juda. Après ça, il a dit qu'il viendrait de la famille d'Isaïe. Après ça, il a dit qu'il viendrait de la maison de David Et tout ça, c'est dans des livres différents. Après ça, il a parlé de son caractère, rempli de l'esprit, sans péché, discret, humble, rejeté, trahi, vendu, abandonné des siens, muet comme un agneau, condamné par les autorités, frappé, raillé, injurié, mis au nombre des malfaiteurs, mains et pieds percés, abreuvé de vinaigre, abandonné de son père, côté percé, ses os ne seront pas brisés, enseveli dans le tombeau d'un riche. Et tout cela s'est réparti dans l'ensemble des livres de l'Ancien Testament. Autrement dit, Dieu a donné, a révélé graduellement de plus en plus de détails concernant qui serait le Messie. Dans quelles circonstances, même le village qui était pour venir au monde. Et toi, Bethléem, Ephrata, c'était dans l'Ancien Testament. Tout ça, c'est merveilleux. Après ça, il va parler de son œuvre. Il s'offre volontairement, il porte nos péchés, il subit le châtiment pour nous, il nous justifie, il nous accorde la paix, il triomphe de la mort, il est vainqueur de Satan, il ressuscite, il est élevé vers Dieu, et c'est sûrement pas une liste exhaustive. Alors, dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Par rapport à Genèse 3.15, il a développé de plus en plus des caractéristiques, des précisions sur qui serait le Messie. Et tout ça, c'est dans plusieurs livres, dans plein de livres, dans Ésaïe, dans Psaume, c'était très intéressant. Alors, confronté de façon messianocentrique, ça veut dire que le Seigneur garde à l'esprit la réalisation, l'accomplissement de sa promesse. Alors, confronté de façon messianocentrique, donc la première idée de Dieu, c'est de continuer la réalisation de sa promesse. L'autre idée, celle dont on est bénéficiaire, la grâce. Genèse 6, 8, mais, malgré la décision de tout, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Très intéressant, parce que c'est sûr que si Dieu aurait détruit toute l'être humanité, puis qu'il fallait que, quelque part, sa première promesse, il fallait que ça vienne par l'homme, le fils de la femme, et toutes les autres promesses qu'il a faites à la suite. Alors, vraiment, une grâce, c'est une faveur imméritée. Même, j'avais lu dans un livre, je l'avais déjà partagé, c'est plus que immérité, c'est démérité. Faire la différence entre les deux, si je vous donne quelque chose que vous ne méritez pas, ben vous allez dire, ah, t'es donc bien fait, pourquoi tu me donnes ça? Mais si vous me faites du mal continuellement, vous m'agressez, vous agressez ma famille, vous brisez mes propriétés, et que là, moi, je vous donne quand même quelque chose malgré tout ça, ça, c'est une faveur déméritée. Et pour tout pécheur, c'est exactement dans la situation qu'on se trouve. C'est plus qu'immérité. C'est qu'on mériterait l'inverse, on mériterait la colère, on mériterait la condamnation, on mériterait, et il nous donne sa grâce. Alors, ce qui est intéressant pour le verset 9, c'est de regarder un petit peu aussi, quand Dieu donne la grâce, quelles sont les manifestations qui vont se démontrer dans la vie de la personne après sa réception de la grâce. Voici verset 9, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Est-ce que Dieu lui a fait grâce parce qu'il était juste et intègre, ou si la justice et l'intégrité est arrivée après la réception de la grâce? Après? Tu deviens juste, tu deviens intègre à cause que tu as reçu la grâce de Dieu. Voyez-vous, ça suit, verset 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Et regardez bien la dernière partie de la phrase aussi. Quand on marche avec Dieu, c'est parce qu'on a reçu la grâce. Le premier qui avait reçu, qui est mort à 365 ans, c'était quoi sa caractéristique? Il marchait avec Dieu. Les êtres régénérés qui ont reçu la grâce de Dieu marchent avec Dieu. Et ça s'exprime dans leur conduite et dans leur manière de marcher. Alors, ce verset démontre clairement que la foi véritable produit toujours du fruit. Ça, là, si je pourrais le répéter 1 million de fois, dans votre tête, là, la foi véritable produit toujours du fruit. C'est ça que les Écritures nous enseignent. Alors, ici, Noé est décrit comme étant juste, intègre et marchait avec Dieu. Et si on va voir dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que le Seigneur nous dit sur est-ce qu'un juste peut demeurer dans son péché et pratiquer son péché après son salut? Non. Jacques, chapitre 5, versets 17 à 26. Il en est ainsi de la foi. Ça, c'est un passage avec lequel Luther a eu un trouble épouvantable. Il n'arrivait pas à comprendre ici, parce qu'il avait découvert dans Galates puis dans Romains que le juste vivra par la foi. Et ici, Jacques, lui, il l'appelait l'épître de paille. Il y avait de la misère avec ce passage-là. Parce que le passage est en train de te dire que la foi, si elle est véritable, si elle est divine, si elle a été reçue souverainement par Dieu, va produire une vie fructueuse. Sinon, il est en train de te dire que peut-être que la foi que tu dis avoir, elle est peut-être inexistante. Parce que lui, il dit, si tu as la foi, tu vas produire du fruit. C'est ça que Jacques dit. On va le lire, le passage. 17 à 26, Jacques 5. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Autrement dit, quelqu'un qui dit qu'il a la foi, puis que pour lui, la Bible, ça ne veut rien dire, puis qu'il ne change rien dans sa vie par rapport à ce que Dieu commande, mais peut-être qu'il ne l'a jamais eu, la foi, c'est juste dans la tête. La foi intellectuelle, ce n'est pas la foi qui sauve. La foi qui sauve, c'est la foi qui obéit. Mais quelqu'un dira, « Toi, tu as la foi, mais moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. » Tu montres à quelqu'un que tu as la foi par tes œuvres, ta manière d'agir, ta manière de penser, ta manière de parler. Ça se manifeste dans ta vie. Il dit, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, ils tremblent. » Alors, ce qu'il est en train de dire, c'est que les démons ont la foi. Une certaine forme de foi. Ils croient que Dieu existe. Combien j'en ai rencontré de gens avec qui j'ai discuté du salut? Je crois que Dieu existe. Crois Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Je le crois. Mais si tu croirais véritablement ta vie, les reproches que je te fais là, tu les recevrais et tu dirais oui, c'est vrai. Et tu voudrais changer les choses. Et après ça, il dit dans le verset 20, « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? » Hey, c'est pesant comme phrase. Après ça, verset 21, « Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? » Est-ce que Dieu avait choisi de faire grâce à Abraham parce qu'il avait voulu donner son fils? Ou s'il exprimait la foi, sa foi, par le fait qu'il était prêt à sacrifier son fils, reconnaissant par le fait même que Dieu avait la capacité de le ressusciter. Il n'est pas en train de dire ici là, qu'Abraham est sauvé par les œuvres. Il est en train de dire que les œuvres qu'Abraham faisait manifestaient l'authenticité de sa foi. Verset 22 dit, « Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. » Verset 23, « Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. » Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. C'est des passages qui ont fait couler beaucoup d'encre, qui sont parfois difficiles à exprimer, à expliquer. On n'est pas en train de dire que c'est les œuvres qui nous sauvent. On est en train de dire que lorsqu'on a la foi véritable, on a des œuvres, on produit des œuvres. Un peu comme Noé avait reçu la grâce de Dieu et il était devenu juste et intègre et il marchait avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire marcher avec Dieu? Ça veut dire reconnaître Dieu dans ta vie comme s'il voyait de façon absolue tout ce que tu penses, tout ce que tu dis, tout ce que tu fais comme étant toujours sur son regard. Est-ce qu'il y en a d'entre nous qui vivent une vie en ayant toujours ça à l'esprit, quasiment de façon 24 heures par jour, séjour, semaine, sans arrêter? Tu sais que Dieu, il t'entend là, qui voit même ce que tu penses, qui écoute tes paroles. Si quelqu'un a la crainte de Dieu, qui marche avec Dieu, ça veut dire qu'il prend conscience de la présence, de l'omniprésence de Dieu en tout temps, en toute chose, sans arrêt. Parce que quand tu viens pour faire une bêtise, tu viens pour dire un mot, hop, peut-être je ne devrais pas dire ça, parce que ça déplaît au Seigneur. C'est comme une marche, elle implique aussi une communion. Si je dis à quelqu'un, on va-tu prendre une marche? Bien, à quelque part, il faut s'entendre, quelle direction qu'on s'en va. Et on marche à peu près au même rythme ici. Moi, je me souviens d'avoir pris des marches avec un gars à l'île d'Orléans. Il mesurait 6 pieds et 3. Puis quand il marchait, là, Lucie, elle me disait, elle dit, c'était assez drôle parce que des fois, moi, je marchais avec lui en avant, puis eux, ils marchaient en arrière. Puis des fois, on était loin, puis ils marchaient tellement vite. Lucie a dit, tu faisais 2 pas pendant qu'il en faisait un. Mais je réussissais quand même à garder le contact parce que je me disais, il faut bien que je le suive. Si je ne le suis pas, il va partir tout seul en avant. Alors, ça implique qu'on s'en va dans la même direction, qu'on essaie de garder un rythme, qu'on est l'un près de l'autre. On communique. Mais rare, tu prends une marche avec quelqu'un, puis tu restes silencieux. Ça peut arriver, mais en général, on parle, on discute, on échange. Marcher avec Dieu, ça veut dire que ça implique que tu sens sa présence quotidienne, toujours avec toi, autour de toi, et que tu marches dans le même sens que lui. Est-ce qu'une marche avec Dieu, ça pourrait se faire sans obéissance?
Non.
Est-ce qu'une marche avec Dieu, ça peut se faire sans accomplissement de sa volonté?
Non.
Accomplissement de sa volonté, là. C'est écrit, 1200 pages, beaucoup de stock. Il y a beaucoup de choses qu'il veut qu'on sache. Beaucoup de choses à changer dans nos vies. C'est presque incroyable, des fois, quand on regarde tout ce que Dieu veut changer dans nos vies. Il veut nous faire ressembler davantage à Jésus-Christ. Quand on s'arrête à penser à ça, lis les 4 évangiles, puis regarde comment Jésus se comportait en tout temps, en toute chose. Tu vas avoir une idée. C'est ça qu'il veut faire avec toi. C'est ça qu'il veut faire avec moi. Puis moi, je peux vous dire une chose. Je le dis bien humblement, puis je le crois vraiment. Il y a beaucoup de travail à faire dans mon cas. Et je dis pas ça. Je dis ça parce que c'est vrai. Il y a tellement de choses à changer. Et ça se fait graduellement dans le courant de notre vie chrétienne. Et il change notre manière de penser. Il change notre manière de parler. Il change notre manière d'agir, etc., etc. Et c'est jamais une œuvre complètement terminée. On a un but à atteindre, on a une direction à s'en aller. Et ça implique, marcher avec Dieu, que tu plais au Seigneur. Est-ce qu'à chaque jour, quand on marche, on peut dire, « Seigneur, tu dois être content, là, j'ai fait un bon coup, là. » Être approuvé de lui dans ce que tu penses. Parce que quelqu'un peut nous regarder de l'extérieur, puis je ne peux faire jamais vraiment des gros péchés, comme ils disent en anglais, « gross sin ». Vous pouvez me regarder Marcel. Marcel, il ne fait pas de « gross sin ». Mais si le Seigneur, il voit dans ma tête, il voit dans mes pensées, puis il me dit que je peux pécher par là aussi. Marcher avec lui, ça l'implique que tu sais qu'il lit ça aussi. Fait que quand tu as l'esprit plein de cochonneries, comme on dit, ça l'implique que, comme les Écritures disent, rentre-toi d'autres choses dans la tête qui est plus selon les Écritures. Change ce qui est là. Il y a bien des moyens de le faire, la prière, la séculte, plein de choses. Être approuvé du Seigneur en tout temps, c'est ça marcher avec Dieu. Alors, comme application, on a mis 3. Premièrement, sachons que les jours de l'époque de Noé ressemblent étrangement à nos jours et que nous devons d'avertir les pécheurs du jugement à venir. Disons, je ne sais pas si on peut déterminer le nombre d'années, semble-t-il, quand on va arriver dans le déluge, on devrait avoir une idée. Disons une centaine d'années, ça y a pris construire l'arche. Pendant 100 ans, ils allaient voir ce monde-là qui était pourri, qui était enfoui, et ils avertissaient que Il s'en venait un déluge, imagine-toi, tu construis un bateau dans un champ, il n'y a même pas d'eau proche. Il a-tu fait rire de lui? Il a dû faire les gorges chaudes, pas à peu près. Hein? Mais il est-tu malade, lui, là? Et là, il a dû faire rire de lui. Imaginez-vous, prêcher tous les jours pendant 100 ans, le jugement du Seigneur s'en vient, préparez-vous. Exactement la même chose aujourd'hui. Le jugement du Seigneur s'en vient, cette fois-ci, par le feu. Les hommes, encore là, ils nous regardent et disent, font les gorges chaudes, mais t'es complètement capoté, toi, t'es d'un autre siècle, tu crois encore ce livre de comique-là, et ils vont dire des histoires semblables à ça. Pourtant, ça va arriver un jour, le jugement du Seigneur. Parce que nous, on le sait que Dieu accomplit toujours ses promesses. Matthieu 24, versets 36 à 39. « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé, » vois-tu, le Seigneur parle du temps de Noé 4000 ans avant. « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même. Oui, il fait une comparaison. Ce qui se passait en ce temps-là, bien, ça se passe encore au retour du Seigneur. Ça va se ressembler pas mal. Il dit, il s'en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ça tombe comme une... Deuxième application, prions le Seigneur de nous montrer la profondeur infinie de sa haine du péché et de sa condamnation certaine. Troisième application, louons le Seigneur pour sa grâce souveraine et glorieuse. Par elle, nous sommes réconciliés avec Dieu. Nos péchés sont pardonnés et nous avons la vie éternelle. Que notre grand Dieu soit loué, béni et adoré pour sa grâce merveilleuse en Jésus-Christ. Amen.